Voilà, je suis heureux d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous parler de comment placer sa joie en Dieu à travers le sabbat. C'est un privilège pour moi d'être ici, que Dieu me laisse enseigner à ses fils et ses filles. Alors je me suis donné de la peine pour préparer ce message. C'était un défi. Et l'autre jour, je disais à Nathalie, « Nathalie, tu es où ? T'es là ?» Voilà, l'autre jour, je disais à Nathalie que je sais pas comment tu fais, Nathalie, pour préparer toutes ces prédications, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et Nathalie, je te remercie de m'avoir coaché, de m'avoir aidé, et aussi de m'avoir encouragé à faire ça. Je crois que sans toi, j'aurais pas réussi. Voilà, alors, il y a 3 ans, quand je suis revenu de mission, j'ai décidé de prendre des temps de sabbat toutes les semaines. J'avais cette crainte que... En revenant dans la vie active, qu'avec le stress et toutes les turbulences de la vie quotidienne, j'oublie Dieu. Et des fois, on a trop de travail et pas assez de temps. Et dans le stress du moment, rien ne nous semble plus important que de rattraper notre travail en retard. Et donc, on se lance dans cette course effrénée et des fois, on oublie Dieu. Alors, j'ai mis une limite claire dans ma vie, c'est que le dimanche, pas de travail. Et c'était une très bonne décision. Ça a apporté beaucoup de fruits. Mais c'est clair que si je passe ma journée à regarder des films ou jouer à des jeux vidéo, eh ben, ça perd son sens. Le but, c'est de se reposer en Dieu. Et un des jours où je faisais le sabbat, il y a 3 mois environ, je suis tombé sur un passage de Ésaïe 58 que je vais vous lire maintenant. Alors, c'est Ésaïe, chapitre 58, versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel comme digne d'être honoré, et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui. C'est l'Éternel qui l'affirme. Dieu m'a alors enseigné le repos du sabbat. Je savais déjà que le jour du sabbat, c'est un jour pour ne pas travailler, pour se reposer des 6 jours de travail qu'on a durant la semaine. Mais ce que Dieu m'a enseigné, c'est que c'est aussi un jour pour se reposer de soi-même. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Ben, on a tous des désirs qui nous viennent au long de la journée, des choses qu'on a envie de faire. Et Dieu nous demande de retenir notre pied de ces choses-là, dans ce passage. Alors, qu'est-ce que c'est pour moi, ces choses ? Pour moi, personnellement, c'est regarder des films, jouer à des jeux vidéo. Des fois, j'ai des livres qui ont un suspense tel que j'ai de la peine à m'arrêter même pour un jour. Et je me suis aussi rendu compte que, des fois, la semaine, je fais pas assez de sport. Et puis, je me rattrape le dimanche, je fais des performances sportives. Et Dieu m'a enseigné que le jour du sabbat, c'est... C'est pas un jour pour chercher le profit. C'est pas un jour pour chercher la performance. Et il m'a montré que c'est un jour pas pour chercher la rentabilité, mais juste pour se reposer en lui. Voilà, on voit cette drôle d'image. Je vous assure, il suffit pas de se boucher les oreilles pour se reposer de soi-même, parce que ça vient de notre tête. Tous ces désirs. J'ai 2 questions à vous poser. Quelles sont les choses dont Dieu vous demande de retenir votre pied durant le sabbat ? Quelles sont les choses que vous feriez plus volontiers que de passer du temps avec Dieu ? Je vous laisse 10 secondes pour réfléchir à ces questions. Dans l'Ancien Testament, Dieu nous dit... il nous commande de garder le sabbat. Et c'est en fait le 4e des 10 commandements. Et dans le Nouveau Testament, Jésus il se fait plusieurs fois reprendre par des juifs, particulièrement les pharisiens, parce qu'il n'a pas assez de rigidité dans la façon dont il garde le sabbat, d'après eux. Et Jésus, lui, il nous dit qu'il est le maître du sabbat. Il nous dit aussi que l'homme n'a pas été fait pour le sabbat, mais que le sabbat a été fait pour l'homme. Et Dieu nous aime et il nous commande de faire le sabbat, probablement pour notre bien. Et on peut se poser la question, est-ce que à cause de ces choses que Jésus a dit, est-ce que le sabbat est devenu optionnel? Je pense pas. Est-ce que le sabbat est devenu plus souple? Je le pense. Je pense que le jour où on fait le sabbat, c'est pas important. Après, c'est mon avis, c'est discuté. Mais l'essentiel, c'est que Dieu nous commande ça dans la Bible, mais on vit plus sous la loi. Donc, la loi n'est plus là, mais je pense que la prescription, elle reste. Et ouais, comme je disais, Dieu nous demande de faire ça pour notre bien. Est-ce que vous gardez le sabbat? Personnellement, je pense que tout le monde devrait le faire. Pourquoi? Ben, tout d'abord parce que Dieu nous le commande, mais aussi parce qu'on a tout à y gagner. Dans le passage que j'ai lu tout à l'heure, Dieu fait une promesse à ceux qui gardent le sabbat. Il nous dit, « Je te ferai monter sur les hauteurs du pays et je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. » Mais que veut dire cette promesse? Les commentaires bibliques que j'ai lus, ils disent que c'est une métaphore pour un endroit de sécurité, un endroit qui est au-dessus des soucis de ce monde. Et j'ajouterais que les hauteurs du pays, c'est un endroit où on a une vue globale sur notre vie. On a du recul et ça nous permet d'examiner les décisions qu'on a prises. Et évidemment, c'est aussi un endroit où on peut admirer la beauté de la création de Dieu. Quand nous sommes au sommet d'une montagne et qu'on voit les étendues de paysages à perte de vue, ce que nous ressentons, c'est de l'admiration, c'est de l'émerveillement. Voir la merveille de la création de Dieu et se reposer dans sa présence, ça nous rend humbles. Devant tant de grandeur, devant tant de beauté, on s'oublie nous-mêmes. Et on arrête de s'admirer nous-mêmes, mais on admire Dieu. Et je pense, les amis, que le paradis ne sera pas un endroit rempli de miroirs. En fait, je pense qu'il n'y aura pas de miroir au paradis. Parce qu'on pourra voir la beauté de nos frères et sœurs, et on pourra s'en réjouir. Et aussi, on sera pleinement satisfait, on aura une joie complète en qui est Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'en plaçant notre joie en lui, nous nous oublions nous-mêmes, que nous oublions notre ego pour admirer sa gloire, que nous ayons en nous plus de lui et moins de nous-mêmes. Quand j'ai pris des temps de sabbat, Dieu m'a montré que malgré tous les efforts que je faisais dans la semaine pour mes études, pour mes responsabilités que lui m'a données, en fait une seule chose compte vraiment, c'est que lui est là pour moi et qu'il m'a sauvé et que la partie est déjà gagnée. Toute la pression que je me mets, elle n'est pas justifiée. Passer l'année avec de bons résultats, réussir les examens, c'est important, c'est sûr. Mais c'est même pas proche d'être aussi important que ma relation, que notre relation avec Dieu. Et même si des fois j'ai cette crainte que je loupe l'année, que je perds une année de ma vie, ou même pire, que je sois un échec définitif et que là, mon espoir de devenir physicien parte. Quand je prends le sabbat, cette crainte s'en va. L'unique trésor à gagner dans ce monde, c'est Christ. Et nous l'avons déjà. Dieu nous montre parfois que nous nous stressons, nous courons une course de moindre importance et qu'on néglige l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être dans sa présence, dans sa joie, dans son amour et contempler sa gloire. L'essentiel, c'est lui, c'est pas nous. Et l'essentiel, c'est lui, c'est pas le travail qu'on fait pour lui. Le sabbat, c'est moins de moi et plus de lui. Est-ce que vous voulez moins de vous-même et plus de lui dans vos vies? Alors le sabbat, c'est pour vous. En travaillant, en s'efforçant les 6 jours de la semaine, on acquiert une sorte d'orgueil, qu'on peut faire les choses par nous-mêmes, par nos propres forces. Et on finit par se comparer aux autres. On finit par croire que notre travail, il est tellement important qu'on ne peut pas s'arrêter un jour parce que le monde va s'arrêter si on arrête de travailler. Et faire le sabbat, ça apporte de l'humilité. Ça apporte l'humilité de dire à Dieu qu'il est en contrôle, enfin de croire que Dieu est en contrôle. Si je fais une pause, peu importe quelles en seront les conséquences, et que je me dis on verra bien où Dieu nous mène, même si je me fais virer, et que je crois que Dieu pourvoira, alors ça rend gloire à Dieu. Prendre un temps de sabbat, c'est admettre que nous ne sommes pas tout-puissants. C'est admettre que nous ne sommes pas en contrôle. Prendre le sabbat, c'est donner à Dieu la place qui est la sienne. La joie et le repos en Dieu, c'est ce que nous aurons tous au paradis pour l'éternité. Et je sais pas vous, mais moi je m'en réjouis vraiment. Par contre, parfois, Dieu me montre que je suis un peu hypocrite par rapport à ça. Parce que je me réjouis du paradis, je me réjouis d'être dans sa présence, mais au jour le jour, j'ai pas envie d'être dans sa présence, je prends pas des temps avec lui. Et Dieu me dit que, quand je prends des temps sabbat, Dieu me dit que qu'on peut aller dans sa présence dès aujourd'hui, qu'on peut apprendre à le connaître, qu'on peut passer du temps avec lui et se réjouir dans sa présence. En prenant des temps de sabbat, Dieu m'a montré à quel point c'est hypocrite de vouloir attendre le paradis. Si nous le désirons vraiment, pourquoi attendre? J'aime bien comparer le sabbat aux soirées en amoureux. Soirées en amoureux qu'ont les couples et les gens mariés. C'est des temps qu'ils ont dédiés à passer du bon temps ensemble, de profiter de la compagnie de l'autre. Et c'est du temps qu'ils ont mis de côté et ils ont sûrement travaillé tout au long de la semaine pour s'organiser, pour pouvoir garder ce temps que pour eux. Et probablement qu'ils vont demander à leurs voisins de garder leurs enfants. Les gens, ils éteignent leur téléphone. Et j'ai envie de vous dire qu'avec Dieu, quand on prend un temps avec lui pour profiter de sa présence, c'est pareil. Maintenant, je vais vous parler de la nécessité de placer sa joie en Dieu. Après toutes les choses que Dieu m'avait enseignées, je croyais avoir compris le sabbat. Et en fait, j'avais tout compris avec ma tête, je crois. Ou peut-être pas tout, mais j'avais compris certaines choses. Mais je me suis rendu compte que j'étais encore à la case départ avec mon cœur. Et je me bats toujours avec ça aujourd'hui. C'était relativement facile de me discipliner, de prendre du repos le jour du sabbat, de prendre la décision de passer du temps avec Dieu et de renoncer à toutes les choses que j'avais envie de faire. C'est qu'une question de discipline après tout. Mais Dieu, il nous demande plus que notre discipline. Il nous demande notre cœur. Et il m'a montré cette ligne du passage que j'avais sur laquelle j'étais passé plusieurs fois sans y accorder de l'importance. Cette ligne, c'est « Si tu considères le sabbat comme un plaisir. » Si tu considères le sabbat comme un plaisir. Et c'est une chose, les amis, de renoncer à ce qu'on a envie de faire pour passer du temps avec Dieu. Des fois, c'est difficile. Et moi, souvent, je fais le sabbat avec un cœur partagé. Je fais ce que Dieu me demande de faire, uniquement parce qu'il me l'a demandé, uniquement par discipline, alors qu'en fait, je souhaiterais à ne pas avoir le faire. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de servir Dieu avec cette attitude, où vous vous dites, je le fais parce qu'il faut, mais j'en ai pas envie? On a souvent des moments dans nos vies où le péché et les tentations semblent tellement plus attrayantes que Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous avez l'impression qu'entre votre tête et votre cœur, il y a des milliers de kilomètres, qu'avec votre tête, vous avez envie de glorifier Dieu, vous avez envie de passer du temps dans sa présence, alors vous planifiez les choses, mais qu'au final, l'envie du cœur, elle n'est pas là, que votre cœur, il désire d'autres choses, il désire d'aller faire du vélo dehors, de regarder un film, de faire des jeux vidéo, je sais pas, d'aller conduire votre Ferrari, je sais pas, si vous en avez. Dans Psaume 100, verset 1 à 2, Dieu nous dit comment le servir. C'est écrit, « Poussez des cris de joie en l'honneur de l'Éternel. Habitants de toute la terre, servez l'Éternel avec joie. » Venez dans sa présence avec allégresse. Ce passage montre qu'il y a des façons de servir que Dieu n'aime pas. Il n'aime pas qu'on le serve à contre-cœur. Il n'aime pas qu'on le serve avec ennui ou avec tristesse. Il nous dit clairement, il nous dit explicitement qu'il aime qu'on le serve avec joie. Et quand je faisais le sabbat avec un cœur partagé, eh ben, je ne crois pas que je glorifiais Dieu. Et je ne pense pas qu'il prenait plaisir à mon sabbat. De la même façon, Dieu il nous demande de venir dans sa présence avec allégresse. C'est un mot très fort, allégresse. Il veut qu'on vienne de sa présence en n'ayant pas l'impression de faire un sacrifice. Au contraire, il veut qu'on vienne de sa présence avec allégresse. J'ai tout de suite compris la nécessité de se réjouir en Dieu. Parce que si on ne prend pas plaisir au repos du sabbat, si ce que notre cœur désire, c'est, je ne sais pas, toutes les pensées qui vous passent par la tête, mettez vos mots. Pour moi, ben, c'est des films, des jeux vidéo, toutes sortes d'autres choses, faire du sport, je ne sais pas. Si on ne prend pas plaisir au repos du sabbat, au repos dans la présence de Dieu, ça veut dire qu'on aimerait être ailleurs, en fait. Et on ne peut pas vraiment se reposer au sens biblique si on veut être ailleurs. La Bible utilise le mot « demeurer ». Demeurer en Dieu. Demeurer, c'est un mot très fort. Demeurer, ça veut dire être dans la présence de Dieu en voulant être nulle part ailleurs. On ne peut pas non plus glorifier Dieu si ce que notre cœur désire ardemment, c'est le succès, la drogue, l'admiration des autres, la pornographie, la nourriture, une nouvelle maison, ou si on pense constamment au voyage qu'on va faire. Nous glorifions ce que nous aimons. Nous ne glorifions pas uniquement à travers des décisions et des engagements. Nous glorifions en cultivant des affections dans notre cœur. Nous glorifions Dieu le plus quand nous sommes satisfaits en lui et quand nous prenons plaisir en lui. Et je ne vous parle pas ici d'une foi basée sur les sentiments futiles qui nous viennent et qui partent aussitôt. Je vous parle d'une affection profonde de notre âme pour Dieu. Et maintenant, je vais vous parler de comment est-ce qu'on peut concrètement se battre pour notre joie en Dieu. Mais avant ça, j'aimerais insister sur deux points. C'est que dans tous nos efforts pour cette bataille de mettre notre joie en Dieu, on doit être modeste. On doit se battre comme des pécheurs justifiés, des pécheurs déjà justifiés. Et on ne doit jamais se battre pour gagner le salut. La joie en Dieu, ce n'est pas un critère pour être sauvé. C'est un cadeau réservé aux élus de Dieu. C'est un cadeau que Dieu fait à ses enfants, aux gens qui ont déjà accepté Christ comme sauveur. Dieu nous permet de nous battre pour notre foi et notre joie en lui. Et c'est uniquement par son action à lui que nous pouvons nous battre. Voici un verset dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10, qui résume bien ça. « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. » Le deuxième point sur lequel j'aimerais insister, c'est que nous devons nous battre en ayant conscience que peu importe nos efforts, peu importe à quel point nous nous battons, à quel point nous travaillons pour être joyeux en Dieu, pour être heureux en lui, seul Dieu peut nous donner cet amour, cette joie. C'est un peu comme l'évangélisation. Dieu, il nous demande de témoigner. Il nous demande de donner un témoignage et on peut se préparer, on peut bien se préparer, on peut donner un très très bon témoignage. Mais au final, notre témoignage, il ne va pas sauver les gens. Seul Dieu peut sauver les gens. Dieu nous a créés et nous a donné un rôle dans le bon fonctionnement du monde. Mais c'est un rôle modeste. Alors si nous nous battons pour placer notre joie en Dieu, mais que nous traversons un désert spirituel, que nous sommes tristes, on ne doit pas le reprocher à Dieu. Parce qu'il est souverain, et s'il juge bon de nous faire traverser une saison de doute, une saison difficile, alors on doit lui faire confiance. Et là aussi, j'ai un verset qui montre cet état d'esprit. C'est dans Proverbes chapitre 21, verset 31. On prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Est-ce que ça veut dire qu'on doit arrêter de préparer notre cheval pour le jour de la bataille? Non, loin de là. Préparer le cheval, c'est notre part, et on doit le faire bien, on doit le faire de notre mieux. Par contre, décider de l'issue du combat, ça appartient à Dieu. Maintenant, je vais vous partager quatre stratégies pour être heureux en Christ. La bataille pour être heureux en Christ, c'est principalement une bataille pour voir la gloire de Dieu. C'est en voyant la gloire de Dieu que vient la joie. Et je parle là de la joie en Dieu, hein, pas de la joie en général, pas de la joie de quand vous recevez votre nouveau téléphone, votre nouvel iPhone. Je parle de la joie en Dieu. Et donc, la première stratégie, c'est de lire la Bible. Nous pouvons voir la gloire de Dieu en lisant la Bible. Et la Bible elle-même nous dit de méditer la parole de Dieu nuit et jour. Jérémie s'exclame dans Jérémie chapitre 15, verset 16. Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Elles ont fait ma joie et mon bonheur. Alors je vous dis, dévorez la Bible. C'est plus important que le déjeuner. Je vous promets. Et à moins que vous soyez très différent de moi, vous avez besoin de revoir la gloire de Dieu tous les matins. Parce qu'on est rapide à oublier. Tous les matins, on a besoin de renouveler notre foi et d'entendre qui est Dieu. Nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Nous avons besoin de ça pour être heureux en Dieu. Et quand vous lisez la Bible, concentrez-vous sur la centralité de Dieu dans la Bible. Concentrez-vous spécialement sur la centralité de Christ. Qui est Dieu? Comment est-il? Qu'a-t-il fait? Il faut être à la recherche de paroles qui révèlent la gloire de Dieu pour nous. Et un des passages qui, personnellement, me fait vraiment m'émerveiller devant la gloire de Dieu, c'est le passage où Jésus commande à la tempête de se calmer. Et la tempête se calme, et les disciples se disent entre eux, « Mais qui est cet homme pour qu'il puisse commander même à l'eau et au vent ?» La stratégie principale de l'ennemi pour nous empêcher, non, la stratégie principale de l'ennemi est de nous empêcher de voir la gloire de Dieu dans la Bible. Et cela m'amène à la deuxième et à la troisième stratégie pour la bataille. La deuxième stratégie, c'est de mémoriser la Bible. La Bible, c'est l'épée de l'esprit. C'est la parole de Dieu. Et pour se défendre contre l'ennemi, contre ses mensonges et ses accusations, il nous faut cette épée. C'est l'arme offensive que Dieu nous donne pour résister au diable. Et quand l'ennemi nous attaque, quand nous avons besoin de nous rappeler les vérités de la Bible. C'est en nous rappelant que Dieu nous aime et qu'il nous commande de lui obéir que nous pouvons résister aux tentations du diable. Alors mémorisons, encourageons-nous à mémoriser la Bible. La troisième stratégie, c'est de se prêcher à soi-même. Cela va peut-être vous surprendre un peu, se prêcher à soi-même. Est-ce que vous avez l'habitude de faire ça? Et je parle de se prêcher à soi-même, comme par exemple David l'a fait dans Psaume 42, verset 11. Il dit « Pourquoi t'abattu, mon âme ?» Alors, il se parle à lui-même. « Pourquoi t'abattu, mon âme ? Et gémis-tu au-dedans de moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Adressons-nous à Dieu adressons-nous à notre âme avec les promesses de Dieu. Prêchons-nous les promesses de Dieu toute la journée. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ils ne refusent aucun bien de ceux qui marchent avec intégrité. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Apprenons à nous prêcher nous-mêmes. Et pour pouvoir le faire, mémorisons la Bible. Mémorisons les encouragements qui nous sont adressés et les promesses qui nous sont faites. Et pour finir, la dernière stratégie, c'est tout simplement de prier à Dieu et lui demander ce dont on a besoin pour être heureux en lui. Prions avec persévérance pour demander tout ce dont nous avons besoin. Et si vous prenez un temps avec Dieu mais que vous n'en avez aucune envie, dites-le lui. Si vous lisez la Bible mais que tout ce qui est écrit vous semble ennuyeux, dites-le lui. Quand vous prenez un temps avec Dieu mais que vos pensées partent dans tous les sens, dites-le lui. Et quand votre cœur n'est tout simplement pas satisfait en Dieu, dites-le lui. Demandez et attendez-vous à recevoir. Nous voici arrivés à la conclusion. Le titre de mon message, c'était « Comment placer sa joie en Dieu à travers le sabbat ?» Et le sabbat, ça joue un rôle central dans la vie chrétienne. Dieu nous a créés pour avoir une relation avec nous. Et le sabbat, c'est le temps qu'on met de côté, exprès pour notre relation avec Dieu. Et le passage que nous avons lu, que nous avons étudié, il nous parle de quel type de relation Dieu il veut avoir avec nous. Il veut qu'on l'honore en ne travaillant pas le jour du sabbat, en ne nous occupant pas des choses de ce monde. Et il nous demande aussi de nous retenir de faire ce qu'on désire faire. Il nous demande de nous retenir en ce jour de faire ce qui nous plaît. Et il nous demande de faire tout ça volontiers. Dieu veut qu'on l'aime, il veut qu'on se réjouisse dans sa présence. Et si on savait vraiment qui est Dieu, je pense qu'on pourrait que l'aimer et que se réjouir d'être dans sa présence. Mais depuis la chute d'Adam et Ève, nous vivons dans un monde de péché. Et nous prenons nous aussi part au péché de ce monde. Et en péchant, je pense qu'on s'aveugle. Nos yeux s'aveuglent et on peut voir qui est Dieu que partiellement. Et dans la Bible, dans Romains 8, 7, il nous est dit « En effet, la nature humaine tend à la révolte contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle n'en est même pas capable. Notre cœur, il est insensible à Dieu. On ne peut pas se réjouir de la grandeur, de qui il est. Et l'ennemi nous attaque. » Et notre cœur brisé, il n'est pas à l'abri de l'idolâtrie. Et je sais pour ma part que je n'aurai pas beaucoup d'efforts à fournir pour mettre tout mon plaisir dans mon argent, pour mettre tout mon plaisir dans ce que j'achète, ou pour faire l'idolâtrie du succès et y mettre tout mon plaisir. Par contre, aimer Dieu et me réjouir en lui, ça j'en suis incapable. C'est pour cette raison qu'il est absolument essentiel que nous entreprenions tous la bataille pour placer notre joie en Dieu. Et c'est une bataille particulière, car sans Dieu, nous sommes incapables de la mener à bien. Le passage dit qu'on n'en est même pas capable. Et nous devons nous battre pour voir la gloire de Dieu. Et en se battant, il faut qu'on se batte jusqu'à qu'on puisse voir qui Dieu est vraiment. Et alors seulement notre cœur s'émerveillera de qui il est. Et on pourra se réjouir et être heureux de passer du temps avec lui. Et c'est avec cette attitude-là que Dieu il veut qu'on prenne des temps de repos dans sa présence. Je vous propose qu'on prenne 2 minutes de silence pour réfléchir aux choses qui ont été dites et qu'on se pose la question suivante. Quelles sont les choses dans lesquelles je mets mon plaisir? Quelles sont les choses dans ma vie qui prennent la place de Dieu? Et je vous invite à demander pardon à Dieu pour ne pas l'avoir mis toujours à la première place. Et je vais conclure ce temps de silence en priant en haute voix. Père, je te remercie pour tous les gens qui sont ici. Je te remercie pour ceux d'entre nous qui vivent déjà cette joie et ce bonheur en toi, qui se lèvent le matin et qui, en venant vers toi, sont remplis de ta joie et qui sont remplis d'amour pour toi. Je te remercie pour ce don que tu leur as fait. Et Père, je te remets tous les autres, tous ceux qui bataillent avec ça, pour qui c'est toujours une bataille de prendre un temps avec toi, pour qui c'est une bataille de faire ta volonté parce qu'ils en ont pas envie, parce qu'ils ont envie des choses de ce monde, que l'ennemi plante dans nos cœurs. Père, je te prie d'accompagner tous les gens qui veulent entreprendre cette bataille, d'être heureux en toi. Je te prie de nous donner envie d'entreprendre cette bataille, de trouver la joie en toi. Père, on chantait avant que tu ouvres les yeux de notre cœur. Et c'est ma prière aujourd'hui pour tous ceux qui sont ici et qui ne sont pas satisfaits en toi, qui te glorifient que par discipline, qui te glorifient parce qu'ils ont pris la décision d'être chrétien, de te suivre, de te dédier leur vie, mais qui, au fond de leur cœur, n'ont pas d'amour, n'ont pas de désir d'être en toi et de voir plus de toi. Père, je te prie qu'on puisse tous venir dans ta présence et être remplis de toi, être épatés par qui tu es, être épatés par ta nature, par les choses que tu nous dis dans la Bible. Père, je te prie de satisfaire nos cœurs, pas uniquement pour qu'on soit heureux, mais aussi pour qu'on puisse te glorifier. Et Père, je te remercie que dans ton plan de gloire pour te glorifier, et dans ta propre joie, tu nous inclus dans cette joie. Tu nous demandes pas de te glorifier en étant triste. Tu veux qu'on entre dans ta joie, qu'on entre dans la joie du Père, et qu'on soit joyeux avec toi, et que nous te glorifions, et que ensuite ta joie vienne sur nous. Et qu'on te glorifie encore et encore, parce que plus nous te glorifions, plus nous voyons qui tu es, plus nous avons d'amour pour toi. Amen.